Aujourd'hui, à Rencontre, le sens de la vie, avec Christian Chabanis. Christian Chabanis a publié, il y a quelques années, deux livres qui ont connu un grand succès. Dieu existe ? Non. Et Dieu existe ? Oui. Dans le premier, des athées connus expliquaient à Christian Chabanis pourquoi ils ne croyaient pas en Dieu. Parmi eux, Claude Lévi-Strauss et Edgar Morin, que l'on a vu à Rencontre plusieurs fois. Dans le second, Dieu existe, oui, des croyants expliquaient cette fois pourquoi eux croyaient en Dieu. Chabanis avait réuni des gens comme Françoise Dolto, Pierre-Emmanuel, Jacques de Bourbon-Busset, André Frossard et bien d'autres qui ont été invités à Rencontre. Or, en 1982, cet homme, marié et père de famille, a fait paraître un troisième ouvrage, « La mort, un terme ou un commencement ». Il y a réuni 21 témoignages, dont plusieurs avec des gens qu'on a vus encore une fois à Rencontre au cours des ans, Philippe Ariès, Luc Estan, Emmanuel Lévinas, Gabriel Batzneff, etc. Nous avons invité Christian Chabanis pour nous dire cette fois ce que lui pense de la mort et de la vie et de Dieu. Il le fait de façon admirable en répondant aux questions de Marcel Brisebois, qui est allé le rencontrer chez lui à Paris.
Christian Chabanis, pourquoi ces grandes enquêtes sur l'existence de Dieu, la mort? Qu'est-ce que vous cherchez?
Certainement, je ne suis pas seul à chercher. Et c'est pour partager avec d'autres et ma recherche et leur recherche. Certainement parce que beaucoup de questions sont venues à moi, dont celles que j'ai posées. Et c'est pour ne pas vivre tout seul les interrogations qui sont les miennes, les partager avec d'autres.
Vous dites vous-même, et vous avez tenu d'ailleurs à le répéter, qu'il ne s'agit pas simplement d'une rencontre entre un intervieweur et un interviewé, que c'est un dialogue, que c'est un entretien. Et j'oserais vous dire, est-ce qu'il y a une question encore plus profonde que ça, Dieu existe-t-il, oui, non, la mort, la vie? Quelle est au fond la question qui habite Christian Chabanis?
C'est une très belle question que vous me posez. Je ne suis pas un intellectuel qui s'interroge pour s'interroger. Et c'est pourquoi votre question est une belle interrogation. J'aime la vie. J'aime profondément vivre.
Quand vous dites que vous aimez la vie, qu'est-ce que vous voulez dire?
Eh bien, la vie quotidienne. J'apprécie le vivre, mais pour moi, la question fondamentale, c'est un peu celle de Dante à Béatrice. Dis-moi comment l'homme s'éternise. Dis-moi comment la vie s'éternise. Dis-moi comment les choses et les êtres que j'aime pourraient-ils ne pas mourir? Comment pourrait-on goûter éternellement d'être? Et alors, c'est une question à laquelle les hommes et les femmes ne répondent jamais directement et totalement. Alors, j'essaie de la poser à celui dont je me dis, lui est éternel.
Je crois que vous êtes d'origine méridionale, oui, par exemple. Est-ce que c'est une question de caractère ou si c'est au contraire une question de conviction qui s'est articulée progressivement?
Les deux sont profondément liés, certainement. C'est une question peut-être de caractère. Mais si ça n'était qu'une question de caractère, justement, elle ne déboucherait pas sur une interrogation aussi profonde. Je me contenterai de la vivre. C'est ma foi qui a donné sa dimension à cette interrogation. C'est vraiment la rencontre du Christ, très précisément, qui m'a permis de comprendre que cette question qui était en moi n'était pas vaine. Et c'est la rencontre du Christ qui lui a donné toute sa dimension. Et en effet, j'ai reconnu comme une réponse fondamentale à cette interrogation fondamentale. Un certain nombre de paroles du Christ, à qui irions-nous, par exemple, toi seul, à les paroles de la vie éternelle? Je me souviens d'avoir, avec Monterland, abordé cette question. Et à propos de son œuvre même, il venait de me dire, ce qu'il a écrit ailleurs, je n'ai pour me soutenir au-dessus des mers du néant que l'idée que je me fais de moi. Et je lui disais, même cette idée fait partie de ce néant. Même cette idée n'est rien. S'il n'y a pas quelqu'un de plus grand que vous pour la soutenir, même votre œuvre, n'est que du flatus vocis, ça n'est qu'une œuvre, ça n'est que du papier, de l'écriture, ça n'est rien. Mais s'il n'y a pas en vous quelqu'un qui est davantage que tout ce qu'il apparaît, alors toute cette apparence est vaine. Et je lui avais cité la réponse de Pierre au Christ, à qui irions-nous toi seul à les paroles de la vie éternelle ? Et j'avais dit à mon Terlin, vous avez beaucoup de paroles, et des paroles dont certaines sont extrêmement belles, mais si elles ne sont que belles, elles ne sont rien. Alors il me semble que le Christ est venu me dire, cette soif qui est en toi est faite pour une source. Et je suis cette source, puisqu'il dit lui-même, je suis la vie. Je suis la vérité. Ton appétit, ta soif de vie éternelle, ta soif de vérité éternelle, ta soif d'une évidence définitive, elle est fondée. Car tu n'as pas soif en vain. Il y a une réalité qui répond à cette soif. Ce n'est pas en vain que tu regardes dans la direction de l'absolu. Il y a un absolu qui répond à cette soif. Alors je ne sais pas où se noue ce dialogue entre ma soif et la réponse qui lui est donnée, mais je sais évidemment que la soif a été aiguisée du fait que je sais, que je crois qu'il existe une réponse. Et je ne peux pas oublier que cette réponse existe.
Votre soif a été aiguisée, mais est-ce qu'elle est, je dirais, est-ce que vous êtes un homme repu, satisfait par...
Oh non, Dieu merci.
Donc il y a en vous une inquiétude qui reste...
Il y a
une angoisse,
une interrogation permanente, de même que j'attends le jour qui vient, n'est-ce pas ? J'attends demain. Je ne l'attends pas, quelquefois je l'attends dans l'angoisse. Quand ma fille était menacée, je l'attendais à la fois dans l'angoisse et dans l'espérance. Je suis trop vivant pour ne pas sentir que demain peut mettre en cause aujourd'hui et hier. Mais cependant, je l'attends tout de même avec assez d'espérance pour savoir que demain est un jour précieux, qu'après-demain est un jour précieux et que chaque jour est une heure précieuse. Alors, je suis assez vivant pour ne pas m'être installé définitivement, avoir fixé ma vie sur un jour précis et refuser de regarder les jours qui viennent. Mais en même temps, je sais que, ou j'espère, que demain sera plein de cette joie et de cette certitude que j'ai rencontrée.
Donc, votre foi, votre certitude, fait quand même que vous demeurez, et j'emploie à dessein ces mots, que vous demeurez un homme de désir.
Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup l'analyse qui est faite aujourd'hui
du désir. Justement. Vous dites, j'ai rencontré le Christ. Mais comment l'avez-vous rencontré ?
C'est un peu fou ce que je viens de dire parce que je pense que c'est lui qui m'a rencontré. Que c'est lui qui, à une certaine heure, est entré dans mon histoire, comme il est entré dans l'histoire humaine. J'ai été élevé dans une famille qui n'est pas précisément, qui est même loin d'être, d'avoir des préoccupations religieuses. Mais une famille, mes parents ont eu le courage d'élever 6 enfants, d'abord de les avoir, de les élever. C'est aujourd'hui un acte de courage. Ils ont été des parents qui, sans nous parler de la foi religieuse, la vivaient au fond. N'est-ce pas ? Ils m'ont donné l'exemple de cette vie quotidienne vécue dans la joie d'être. Et il me semble que j'ai poussé un peu plus loin que le bouchon. Simplement, je me suis demandé quel sens ça pouvait avoir. Alors, à une certaine heure, l'heure du catéchisme, que beaucoup prennent peut-être un peu légèrement, cette heure-là était pour moi vraiment une révélation. Tout ce que je portais, qui était informulé, à trouver vraiment dans la rencontre de l'Évangile et du catéchisme.
Mais ça me semble étonnant. Le catéchisme, ça, d'autant plus que depuis quelques années, il y a eu toute une remise en question justement de cet enseignement religieux. J'imagine que, enfin, vous avez dû recevoir vous-même cet enseignement religieux qui a été remis en question.
Oui, j'ai participé même à une certaine remise en question, mais je dois dire que je comprends mal un certain nombre de critiques qui ont été formulées contre ce catéchisme élémentaire, qui contenait des réponses que l'enfance entend. J'en suis la preuve vivante. J'ai entendu, n'ayant jamais reçu d'éducation religieuse avant l'heure du catéchisme, dans cette première rencontre de l'Évangile et du Christ à travers le catéchisme, j'ai rencontré tout. Et si aujourd'hui je suis attentif aux réalités même, y compris sociales, je crois que le catéchisme n'a jamais été un obstacle, et même le catéchisme le plus élémentaire. Il m'a nourri au moment où il fallait de choses, peut-être sous la forme que vous connaissez, demandes et réponses, de choses qu'il fallait dire à ce moment-là.
Mais j'employais tout à l'heure les termes de désir. Je poserais presque la question, est-ce que ce catéchisme n'a pas étouffé en vous le désir, comme on pourrait l'accuser?
J'en suis la preuve vivante, non. Non, il a au contraire aiguisé ce désir.
Mais en quoi cela tient-il?
Mon Dieu, c'est une question redoutable, parce que je n'en sais rien à quoi cela tient. Je sais en revanche qu'il m'est impossible de dire le contraire de ce que je dis, n'est-ce pas? Il m'est impossible, même à certaines heures, dans les débuts de l'écriture, où on me proposait d'écrire certains articles, de m'intéresser à certains sujets, et où j'ai fait l'effort de le faire, j'ai senti que ce n'était pas moi qui allait m'engager, que je ne pourrais pas jouer le jeu, n'est-ce pas, que je ne m'y laisserais en tout cas jamais prendre. Qu'en revanche, le désir en moi d'aller au fond des choses était vrai, et que justement le catéchisme l'avait aiguisé.
Donc je reviens à ma question, je ne voudrais pas qu'on s'en éloigne, je vous ai posé la question, comment avez-vous rencontré le Christ? Vous m'avez dit, donc d'abord au catéchisme, et ensuite?
Oui. Et alors ensuite, eh bien je n'en suis plus jamais sorti.
Non.
C'est-à-dire que j'ai rencontré la personne au-delà des textes et des paroles. Et j'ai rencontré la personne comme les textes m'invitaient à le faire.
Vous n'avez jamais remis cette foi en question?
Non.
Enfin, j'entends de la remise en question, le doute, le déchirement,
jamais.
L'éloignement, jamais.
Jamais. Et la question que j'ai posée dans des livres, Dieu existe-t-il, en fait, n'est pas ma question. C'est une question que j'ai posée avec des hommes et des femmes qui se la posent, mais ce n'est pas véritablement ma question. Je ne me pose pas, cette interrogation ne naît pas en moi. Je peux même dire que la seule réalité dont je ne doute pas, c'est lui. Je suis profondément saisi par cette réalité, non pas convaincu, ce n'est pas une conviction, c'est plus que cela, c'est plus qu'une conviction, c'est le sentiment personnel de la présence, n'est-ce pas? Y compris dans ce qui paraît quelquefois la nier, y compris par exemple dans mon péché, dans ma faiblesse, dans mes refus, dans mes révoltes même, dans mes difficultés d'être, la foi n'est pas altérée. C'est même elle qui éclaire ces difficultés.
Mais j'essaie de comprendre davantage, si vous voulez, vous dites la foi en qui? La foi...
En quelqu'un.
En quelqu'un, mais ce quelqu'un, il porte un nom.
Oui, il est Dieu.
Il s'appelle Jésus, ou c'est le Dieu de Jésus?
Dieu, d'abord.
Il s'appelle Dieu, d'abord.
Il s'appelle Dieu, ce qui fait que, par exemple, je me sens très proche de croyants qui ne nomment pas Jésus. Quand la foi est profonde, la foi musulmane, la foi judaïque, mais d'autres fois, enfin, d'autres noms de Dieu ne me gênent pas. Quand je sens quelqu'un attentif à cette présence fondamentale, je me sens très proche.
Ce qui veut dire donc une connaissance de Dieu que je pourrais appeler de l'intérieur, intuitive et non pas nécessairement rationnelle.
Les deux se tiennent. Oui. Elle n'est pas irrationnelle. Elle est intuitive. Pour reprendre Pascal, n'est-ce pas, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, ils sont différents, ils ne s'opposent pas. L'intuition, en moi, adhère à cette présence, mais elle n'est pas irrationnelle. Elle est raisonnable. Elle n'est pas uniquement rationnelle, mais elle est toujours, à mon sens, raisonnable. Il n'y a rien de déraisonnable dans le fait de croire. Et les entretiens que j'ai eus avec des hommes de science l'ont assez bien montré. La raison peut répondre de la foi. Elle peut en répondre. Elle ne peut pas tout dire de la foi parce qu'elle ne peut pas tout dire de son objet. Elle ne peut pas tout dire de Dieu. Il lui est impossible de définir Dieu. Elle ne peut que l'infinir, si j'ose dire. Elle ne peut qu'infinir la réalité dont elle parle. Mais dans cette infinition, qui n'est pas une définition, dans cette infinition, la raison est capable de dire de lui un certain nombre de choses raisonnables. Et évidemment, l'intuition déborde le raisonnable, va plus loin que lui. Quand la raison n'y suffit pas, l'intuition y va. Mmh. Mais dans l'amour même des êtres, dans l'amour humain, on le ressent aussi cela, très profondément. On appréhende que l'on peut rendre raison de son amour, n'est-ce pas ? Et qu'en même temps, il dépasse infiniment la raison.
Dites-moi, vous me dites donc que vous êtes très sensible à ces gens qui croient en Dieu, et qui ne nomment pas Jésus, mais est-ce que vous pourriez vous passer de Jésus ? Est-ce que, par exemple, vous imaginez très bien qu'un jour vous disiez, ben voilà, oui, je continue à croire en Dieu, mais vraiment, Jésus c'est un homme merveilleux, un homme extraordinaire, mais je n'ai pas besoin de lui.
Votre question est très belle aussi. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que j'aime beaucoup Platon et je le lis. Et dans le mythe de la caverne, je vois justement cette appréhension de Dieu sans Jésus. Et je la reconnais et je l'aime, je l'admire chez tous les mystiques d'ailleurs, et les non-mystiques, simplement les êtres de foi. Mais le jour où j'ai découvert justement Dieu parlant de Dieu, n'est-ce pas ? Les hommes parlant de Dieu ont dit un certain nombre de choses. Mais en Jésus, je reconnais Dieu parlant de Dieu, Dieu lui-même. Car, il suffit de se souvenir de quelques-unes de ses paroles, et j'y adhère totalement. Il dit bien « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Il dit bien « Je suis celui qui suis ». Il le dit lui-même, il reprend tout ce que les hommes ont pu dire de Dieu, tout ce que aussi l'Ancien Testament a pu en dire. Il le reprend et il l'atteste définitivement. Il est celui qui vient d'ailleurs. Pour la première fois dans l'histoire des religions, il y a des pages de révélation dans d'autres religions. Mais pour la première fois, Dieu lui-même dit « Je viens ». Et je reconnais en Jésus celui qui est venu dans la caverne. Celui donc, Dieu lui-même incarné en cet être qu'est Jésus. Et cela, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier.
Il y a une question que j'aimerais un peu vous poser, et je ne sais pas trop comment la formuler, mais est-ce que dit pour vous, qu'est-ce que signifie pour vous l'affirmation originelle du christianisme, Jésus est sauveur ?
Eh bien, justement,
parce que, oui.
Oui, c'est aussi une très belle question. Je crois que nous sommes perdus ou éperdus dans le monde. Et nous sommes éperdus dans le bonheur comme dans le malheur. Dans le malheur, évidemment, nous tentons d'en appeler à quelqu'un qui nous sauverait et nous tirerait de la difficulté et du malheur. Alors cet élan vers une puissance, c'est un élan élémentaire de la foi. Mais dans le bonheur, c'est un peu ce que je disais au début à propos de la vie, dans le bonheur, nous ressentons encore plus profondément que ce bonheur a besoin d'éternité, qu'il ne se suffit pas à lui-même, ne serait-ce que parce qu'il y a la mort. Alors, Jésus est sauveur en ce sens qu'il vient confirmer l'homme dans son aspiration la plus profonde à sauver ce qu'il a de meilleur, et notamment son bonheur et son être. Alors Jésus est sauveur en ce qu'il est venu dire et assumer tout ce qui est le contraire du salut, tout ce qui est notre perte, tout ce que nous considérons comme notre perte, ou la perte même des êtres qui nous sont chers. Et il est venu dire, et il est venu vivre cela, pour nous dire, eh bien, malgré tous ces obstacles, l'homme est sauvé. Alors je vis en lui le salut de l'homme, n'est-ce pas ? Je vis en lui le salut de l'humanité, mais le salut de chaque être, qui ne pouvait pas se faire sans lui, qui ne pouvait pas se faire sans Dieu.
Mais est-ce que vous êtes sensible à cette attitude de nos contemporains, qui est plutôt une attitude de révolte, n'est-ce pas ? On glorifie davantage aujourd'hui l'homme révolté que l'homme sauvé, qui nous apparaît plutôt un homme passif, résigné, dépendant.
Alors je proteste contre la fin de votre question, mais je dirais d'abord que c'est vrai que l'homme vit davantage aujourd'hui la révolte, c'est-à-dire que l'homme a cherché à se sauver lui-même. C'est cela, n'est-ce pas ? Il a pensé qu'il pouvait se dispenser d'un sauveur divin. Nietzsche l'a bien montré, n'est-ce pas? L'homme a quelque chose qui doit être, quelqu'un qui doit être dépassé, mais par l'homme lui-même. Il a cherché son salut seul. On l'a vu d'ailleurs, le scientisme avait espéré que les découvertes scientifiques permettraient à l'homme d'accéder à une sorte de, à une existence qui pourrait en effet s'affranchir d'un certain nombre de nécessités. La surprise que nous éprouvons devant certaines faillites économiques aujourd'hui montre que nous avons cru, dans le domaine de l'économie, affranchir l'humanité, à plus ou moins longue échéance, de la difficulté de vivre et d'être. On l'a cru. Mais les illusions dans ce sens ont été nombreuses et bien antérieures à celles de nos sociétés. L'homme a toujours pensé et cherché moyen de se sauver lui-même. Il y a même certaines illusions, d'ailleurs religieuses, qui vont dans ce sens, n'est-ce pas ? Qui ont proposé à l'homme une manière de sortir de sa pauvreté, tout seul. Eh bien, je suis convaincu, vous parliez de dépendance, je suis convaincu profondément que l'être est en effet dépendant, ne serait-ce que de son père et de sa mère, déjà. D'une manière très élémentaire, nous sommes dépendants, et c'est la liberté commence au moment où nous reconnaissons cette dépendance. La liberté n'est pas l'indépendance. On est libre dans la mesure où l'on dépend de ce que l'on aime, et on est prisonnier dans la mesure où l'on dépend de ce que l'on n'aime pas. Et par exemple, dans la filiation avec la paternité, eh bien, si l'on n'aime pas son père, on est prisonnier. Si l'on déteste son père, si l'on se révolte contre la réalité paternelle, la prison commence, et non pas la liberté.
Et en l'occurrence, le salut apporté par Jésus, c'est la dépendance à un...
C'est la liberté.
Mais alors ce rapport au père dans la mort, dans le sacrifice, comment vous l'expliquez? C'est révoltant pour les contemporains.
Eh bien, je l'explique justement dans le lien. Quand la révolte coupe les liens au nom de l'indépendance, et elle aboutit d'ailleurs au suicide, parce qu'il faut couper nécessairement le dernier lien, celui qu'on a avec soi. Dans la mesure où l'on entre dans la voie de l'indépendance absolue, bien sûr, on commence par couper les liens extérieurs à nous, mais on coupe très rapidement les liens avec soi. La logique profonde de cette révolte et de cette indépendance, c'est le suicide. C'est-à-dire le moment où c'est soi-même qu'on ne supporte plus. On commence par nier le père, on nie le fils, on tue le fils. Des lois comme celle sur l'avortement vont dans ce sens, n'est-ce pas? On a d'abord parlé du meurtre du père, on parle du meurtre du fils, et on en arrive au meurtre de soi-même. On en arrive nécessairement au suicide, collectif ou individuel. Parce que nous n'existons que dans la dépendance. Et alors, tout dépend de la manière dont nous assumons cette dépendance. La dépendance de la création par nos géniteurs, mais la dépendance de la création plus fondamentale, de notre âme même, par quelqu'un de qui elle est venue, et qui est Dieu. Alors, si l'on refuse toute dépendance, on refuse toute possibilité de liberté et de salut. Si l'on refuse de n'avoir que deux jambes et que l'on en veuille trois ou quatre, il est possible en effet d'inventer des instruments qui pourraient nous tenir lieu de troisième œil, de troisième jambe ou de Dieu sait quoi. Mais l'on n'ajoute pas à notre nature. Notre nature est dépendante de ces deux jambes et de ces deux mains.
Bien, mais ne passez pas à côté de mon objection. La mort de Jésus, voulue par le Père, était-elle nécessaire au salut? Et ça, c'est révoltant.
Oui, c'est vrai que je n'ai pas répondu à cette question. Ça n'est pas révoltant. Je dirais que ce qui est révoltant d'abord, c'est que l'homme ayant reçu cette liberté à l'origine, certainement, en use aujourd'hui, en est usé toujours, d'abord dans le refus de la dépendance, n'est-ce pas? L'image de l'arbre originel auquel il ne fallait pas toucher est significative. Il y a des choses sacrées devant lesquels nous ne pouvons que nous incliner, dont nous ne pouvons que reconnaître le mystère, dont nous ne pouvons que reconnaître notre dépendance à l'égard d'elle. Il est certain que la liberté si profonde qui nous avait été donnée et qui nous est donnée, nous en usons n'importe comment. Et nous en userons toujours n'importe comment. Alors, par quel mystère a-t-il été nécessaire que Dieu, pour nous rendre cette liberté qu'il nous avait donnée, soit obligé de participer à notre malheur, ça, je suis sans réponse devant cela. Les théologiens l'expliquent de diverses manières, mais ce que je sais et ce que la foi me dit, c'est que, par exemple, devant le malheur de l'homme, Dieu était sans réponse par la simple parole. Il aurait pu, en effet, nous guérir par une parole, puisqu'il a la toute-puissance. Devant le malheur de l'homme, par exemple, il aurait pu dire que ce malheur disparaisse. Eh bien, auprès de parents qui ont récemment perdu un de leurs enfants et qui m'avaient fait appeler auprès d'eux, j'ai ressenti profondément que j'étais sans réponse, que j'étais sans parole. Et je me disais un peu comme Dieu est sans réponse devant un tel malheur. Alors j'imagine, mais ça n'est qu'un... J'imagine qu'étant lui-même sans réponse, la seule réponse qu'il pouvait donner au malheur de l'homme, c'était d'y participer. Et c'était de le vivre. Et je crois que cet acte d'amour de Dieu pour l'humanité est une sorte d'acte d'humilité suprême, n'est-ce pas, qui l'amène... Qu'aurait-il pu dire au malheur de l'homme s'il ne l'avait pas partagé? Qu'aurait-il pu dire autre chose que des paroles, et même divines? Même une parole divine adressée à quelqu'un qui souffre n'est jamais qu'une parole, si divine soit-elle. Tandis qu'il me semble que cette croix qu'il a portée et sur laquelle il est monté, qui est au fond la croix humaine et non pas la croix divine, eh bien cette croix est une manière de prouver que l'amour va jusque-là.
Christian Chabanis, je vous remercie.
Rappelons que Christian Chabanis, qui est marié et père de famille, a publié 3 ouvrages qui ont connu un grand succès. Dieu existe-t-il ? Non, paru chez Fayard. Dieu existe ? Oui, dans lequel on peut lire les dialogues de Christian Chabanis avec des croyants, paru chez Stock. Et La mort, un terme ou un commencement, paru chez Fayard en 82, et qui comprend les opinions souvent fort différentes de 21 personnes.
Cette émission sera reprise dimanche prochain à 13h. Et mardi prochain à la même heure, Christian Chabanis nous parlera surtout de l'amour de la vie.